Mais oui, c'est le Goupil, la star du jour. Merci Hélène Roussel.
Bonjour.
Bonjour. Qui es-tu?
CO2, mon amour.
Tu es bien jolie.
Je suis un renard.
Viens jouer avec moi. Je suis tellement triste.
Je ne peux pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé.
Oh, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoisé?
Ça signifie créer des liens.
Créer des liens?
Bien sûr. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre.
Denis Chessoux.
Je commence à comprendre.
Sur France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue dans CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Avec aujourd'hui Paul Percheron à la technique. Nous avons préparé l'émission avec Camille Blanès et c'est Jérôme Boulet qui la réalise. Et qui commence toujours par une petite humeur d'actualité. Alors bien sûr que l'affaire est chaude. Quelle affaire? Eh bien celle du siècle, pardi, dans lequel on est chahuté de trop chaud, de seau d'eau, de pas assez. Le ciel de temps en temps se purge comme un animal. Un cyclone, c'est une soupape de cocotte minute. Oh, 26,5 degrés, mais les bonnes ces eaux-là, je vais y tremper les papates. Et vas-y que l'air chaud et l'humidité se marient, que les nuages s'accumulent, qu'ils tourbillonnent de plus en plus vite autour d'une colonne. Et vous avez besoin de lunettes? Oh, pas besoin, dit le cyclone. Je n'ai qu'un œil, je suis un cyclope météorologique. J'en ai assez d'un pour tout repérer, pour voir où je veux aller. Alors pas de contrôle au portillon, de passeport, pas besoin d'attacher sa ceinture. Il part de l'Afrique, il s'en va, valsant comme un champignon porté par l'Atlantique. D'Orient, cadeau de Dieu, comme le dit l'étymologie grecque. Vain Dieu qu'ils ont été inspirés de me baptiser ainsi d'Orient. Je vais te montrer si je suis un cadeau. Ah, faut pas le provoquer, le hurricane. Avec mes copains de l'amicale des cyclones ou des typhons, s'ils ont les yeux bridés, nous ne serons pas demain forcément plus nombreux, mais plus puissants qu'hier, assurément. Et on vous dit merci les humains. Ah bah oui, car c'est grâce au surplus de chaleur, de CO2, donc d'énergie, que vous nous avez offert avec vos addictions thermiques sans fin, qu'on a pu se renforcer et avoir de plus en plus faim. Vous voulez tous les ans 15% de dividendes charbonneux pour vos actionnaires? Eh bah très bien, moi je les prends. Je serai plus violent de 15% car... tout est lié. Continuez, ça va m'aider à mieux bûcheronner vos îles, vos côtes, vos villes. Alors cet été, notre beau pays de France, béni pour sa diversité en tout, il faut se rendre à l'évidence, hein. On a vraiment mis les patates au four, thermostat 8, peut-être pas le maximum, mais presque, il va falloir surveiller sérieusement la cuisson si l'on ne veut pas croquer du charbon. Durant 3 mois, vous avez dormi les fenêtres ouvertes, hein, comme au creux des dunes des Émirats, à la merci de Tigre le moustique, de la dengue dingue, du chikungunya, avec des cigales dans le jardin à Roubaix, des criquets dans l'herbe sèche comme au Maghreb, des rivières à sec dans la Creuse, du pastis islandais sans glaçons et des nappes potables assez exsangues. Alors les enfants, devenez sourciers. Regardez un tuto pour manier la baguette de coudrier. Là, il y a de l'avenir. Et dans ces Bahamas, de descendants d'esclaves, dans ce pays d'îles mises à mal, les multinationales étaient dépitées. On ne peut pas leur faire confiance. Après ce cyclone, on va encore devoir trouver un autre paradis fiscal. Alors au menu, donc vous l'avez compris, un CO2 mon amour animal, vous aurez un renard entre les oreilles et nous débutons avec le mot de l'environnement, avec une philosophe. Bonjour Cynthia Fleury.
Bonjour Denis.
Vous êtes professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers et avec vous on va décortiquer le mot biodiversité. Alors c'est un mot qui commence à toucher, on va dire, notre cerveau au sommet de la Terre en 1992, mais il apparaît lors d'une convention sur la diversité biologique dans les années 1985.
Oui, et puis c'est Edward Wilson, grand prof à Harvard, entomologiste de renom, spécialiste des fourmis, qui est l'auteur précisément d'un article en 1985 sur la crise de la diversité. Diversité biologique et de son érosion, et c'est un des papas du mot biodiversité.
Alors, il y a la nature d'un côté, la biodiversité qui est l'ensemble du vivant qui appartient à cette nature, parce que c'est vrai que la nature, c'est un mot plus vaste, ça va englober les pierres, les rochers, etc. quoi.
Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle la diversité des espèces, qui forment la communauté vivante associée à un système écologique particulier ou à un paysage dans son ensemble, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle la diversité génétique, c'est-à-dire celle des gènes possédés par l'ensemble des individus d'une espèce.
Alors, donc, c'est des déjà deux bonnes raisons d'en prendre soin.
Oui, et dans son ouvrage, Patrick Blandin, grand professeur au Muséum, nous rappelle que conserver la nature, ce n'est pas simplement en faire une opération de muséologie, je dirais même l'inverse, c'est comprendre son dynamisme interne, améliorer les stratégies adaptatives des systèmes écologiques, en un mot, je le cite, conserver ses potentialités évolutives.
Alors, conserver la biodiversité, c'est également reconnaître la valeur en soi de ce qu'on appelle la nature sauvage, la wilderness. Hein.
Oui, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'un côté l'état de la biodiversité hors de tout impact humain, d'une part, hein, mais voilà, il faut savoir que tout ce que nous admirons en termes de biodiversité est souvent le fruit de l'activité culturellement et techniquement très élaborée de l'homme, comme par exemple la forêt de Fontainebleau.
Et là, on peut citer la première réserve de paysage pour les peintres, hein, ça c'était à Barbizon.
Exactement. Et puis, on n'en a pas beaucoup parlé dernièrement, la forêt amazonienne, dans la mesure où l'organisation écologique des forêts amazoniennes est inséparable des pratiques des peuples forestiers de cette région.
Alors, on regarde aussi cette biodiversité en fonction donc, des services qu'on appelle écosystémiques, hein, que l'on connaît, qu'elle nous rend, donc la forêt qui filtre l'eau, qui purifie l'atmosphère, les insectes pollinisateurs.
Oui, et puis en plus, elle porte des valeurs, on va dire, socialisatrices, éducatives, récréatives.
C'est dans lesquelles, en général, s'épanouissent le loisir. Hein.
Voilà, culturel. Alors, par exemple, on a les espèces végétales dont sont tirés les instruments de musique. Hein, vous n'avez pas de Stradivarius Lady Blunt sans les épicéas du Val di Fiemme. C'est ce qu'on appelle la forêt des violons qui est située dans les Alpes italiennes.
Ouais, c'est superbe. Et donc, cette biodiversité nous aide aussi à aller mieux.
Oui, alors je vais simplement donner un exemple. Richard Mitchell et Frank Popham,
qui sont deux scientifiques britanniques,
ont démontré le rôle des espaces verts dans la restauration psychologique. Les maladies cardiovasculaires, par exemple, diminuent lorsque les possibilités d'accès aux espaces verts en ville augmentent.
Alors, le beau nous fait du bien, on le sait, mais tout ceci doit quand même gentiment intéresser les économistes. Hein.
Oui, plutôt deux fois qu'une. Tout simplement pourquoi ? Parce que la nature est pourvoyeuse de quantité de services écosystémiques. Donc, beaucoup d'économistes considèrent qu'il faut défendre la monétarisation de ces services. Mais là, c'est encore un autre débat, celui de la valeur intrinsèque de la nature versus sa valeur instrumentale.
On y reviendra. Merci Cynthia Fleury.
Merci.
Et je vous emmène dans quelques instants à la découverte du renard, un affût dans l'Isère, avec Jean-François Noblet.
Every thought that I ignore, now the questions at my door, it's where we begin to believe in this again. Can we believe? Can we believe? I walk down the street with shadows at my feet and words in my head, songs left unsaid. Do you know how we got here? You know how we got here. I drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before. Felt this break, close that door. Are you a stranger? Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside, chokes my throat. Do I think way too much? Are we running out of love? Can a nation built on blood find its way out of the mud? Will the people at the top lose their way enough to stop? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we begin again? Can we
Begin Again, c'était Norah Jones sur France Inter, choisi par Thierry Dupin. Donc un éternel recommencement. Et dans CO2 mon amour, ah regardez, il y a déjà deux oreilles et une queue. Ah bah il n'y a pas de doute, c'est lui.
Je vous emmène très tôt ce matin pour un affût au renard, donc en lisière,
c'est notre vedette
d'un
jour,
pré, donc... d'un pré qui vient d'être fauché. En fait, pour les affûts renards, on peut le faire le soir, tombé de nuit, ou très tôt le matin. Bon, et là, on s'est levé très tôt.
Oui,
hein. Vous avez encore les petits yeux. Ouais. Bon, alors évidemment, ce qu'il faut, c'est regarder autour du site où on va s'il y a des traces. Oh, regardez là.
On a plutôt écouté le début du 5-7 de France Inter.
On a une coulée là.
Oui.
Et on voit qu'il y a des poils sur le grappillon du barbelé, juste au-dessus. Et donc le renard qui est passé là,
il a laissé
un petit bout de poil blanc, c'est le bout de la queue là.
Ah, mon pépère.
C'est bon signe.
Oui, il est là.
Donc il faut,
regarder
quand on fait un affût autour de l'endroit où on va affûter.
Vous avez échappé à Rox et Rookie, au Z qui veut dire Zorro, au Fox News, à J'entends le loup, le renard et la belette, fredonné dans toutes les colonies de vacances. Vous n'échapperez pas à notre star animalière du jour, le renard roux, le Reinhardt germanique, devenu renard, qui a remplacé le goupil dans la langue française. Alors, animal familier, vous le connaissez tous, bien sûr, pour qui les gens ont quand même plutôt de l'affection, et dont l'actualité, toute l'année, consiste à se faire trucider, car on ne comprend pas toujours les principes de régulation du dit canidé. Pour les chasseurs, d'ailleurs, la bête noire, c'est le renard, car il est accusé de manger des poules d'élevage, des cocottes, lâchées dans le seul but d'être tirées. Alors, on va donc écrire un mini-roman de renard, non pas en 80 000 vers, comme au Moyen-Âge, mais en 20 minutes, et redonner ses lettres de noblesse à ce canidé, bah oui, comme les chiens, mais un chien qui glapit. Notre guide affûté, c'est Jean-François Noblet, naturaliste depuis qu'il est tout petit. Et pour découvrir par l'oreille cet éclair roux, on est dans un coin du massif de Chartreuse, dans l'Isère, à 800 mètres. Il était tôt, très tôt. Ah ! Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est beau là ! Alors là, enfin, c'est un pré, j'ai prêt de dire classique, mais avec une lisière donc au fond de feuillus et de conifères, bien sûr. Et on va rappeler d'ailleurs que la lisière, ce qu'on appelle l'écotone, c'est toujours donc ce lieu où il y a beaucoup de biodiversité.
Alors c'est d'ailleurs là où on va faire un affût ce matin.
Ouais.
On s'est levé très tôt pour faire un affût au renard sur une lisière. Les prédateurs ont bien compris que les lisières, ce qu'on appelle l'écotone, c'est l'endroit où il y a le maximum de biodiversité. Pourquoi ? Ben, c'est facile à comprendre. Là, on a d'un côté toute la faune et la flore d'espaces ouverts avec ces prairies. Et donc, ces espèces, elles vont de temps en temps se réfugier, notamment en hiver, dans la partie boisée, qui est la seconde partie de notre Peulse. Donc, les espèces forestières, elles, peuvent également sortir pour se nourrir ou prendre le soleil dans les espaces ouverts. Et donc, forcément, à la limite de ces deux milieux,
confluence. On
a le maximum de biodiversité. Et donc, un prédateur tel que le renard, bien lui, il n'est pas fou. Il va rester en limite, en lisière, mais plutôt dans la partie boisée, en surveillant ce qui se passe dans la partie ouverte. Et si nécessaire, eh ben, il va descendre et il va chasser dans la partie ouverte. Là, il y a un ancien nid de rouge-gorge.
Faut expliquer. Donc, on est au pied
d'un noisetier, d'une touffe de noisetier.
Voilà,
et donc, le rouge-gorge s'est installé là, entre deux troncs, au pied, assez bas, dans une zone un peu sombre. Voilà. Donc, il a niché là cette année.
Alors, notre renard est un animal qui utilise vraiment tous les milieux.
Voilà. Et c'est une bête qui est opportuniste, un petit carnivore. Il mange tout ce qu'il peut, c'est-à-dire. En hiver, il peut manger des charognes, en été aussi d'ailleurs. Il peut manger des insectes, il peut manger des œufs d'oiseaux au sol, il peut manger des rongeurs, évidemment. On estime qu'un renard adulte, en une saison, il mange à peu près 6000 petits rongeurs. Une étude anglaise a démontré qu'un renard adulte sur une propriété agricole fait économiser à l'agriculteur 2400 euros de dommages. Voilà. Il faut quand même bien se mettre ça dans la tête. C'est-à-dire que les gens, et en particulier les chasseurs, certains agriculteurs, ont une idée du renard comme un vandale qui pille tous les poulaillers, etc. Alors c'est vrai que...
De temps en temps, il se fait une poule quand même.
Bah, oui. Ça, oui. 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 Et il se fait un lapin, il se fait lièvre, il se fait une perdrix.
C'est la vie.
Depuis des millénaires, c'est la vie. Ils ont toujours fait ça. Et ils n'ont jamais menacé les perdrix et les renards. Alors que les chasseurs...
Ma grande tante, tante Marie, elle disait dans la Nièvre, il faut que tout le monde vive. Donc, ça faisait boulotter une poule, mais elle acceptait.
Donc, dans la nature, rien n'est utile ou nuisible, tout est nécessaire. Et donc, les renards, qui sont des opportunistes, ils vont manger aussi bien. En ce moment, ils vont manger beaucoup de fruits. Ils vont manger des mûres, ils vont manger des fruits qui tombent au sol, des pommes, etc. Et ils sont extrêmement hétéroclites. Ils peuvent aller manger sur un tas de fumier. S'il y a une aire de pique-nique, ils vont manger les restes de sandwich qui traînent dans la poubelle.
Bah, c'est pique-nique
ils vont manger
le monde,
dans les gamelles des chats en pleine ville ou des chiens dans les jardins. Donc c'est vraiment, comment dire, un animal qui s'en sort bien au niveau du voisinage avec l'homme, parce qu'il a su tirer parti des choses que l'homme lui offre naturellement, notamment les dépôts d'ordures.
J'ai décidé que vivre dans un trou, c'était fini. Et d'ailleurs, la vue est plus belle en plein air, non?
Mais on est heureux comme ça.
Chérie, en termes humains, j'ai déjà 7 ans. Mon père est mort à 7 ans et demi. J'ai plus envie de vivre dans un trou, tu comprends? Et je te promets que je vais y faire quelque chose. Bon, je pars. Et bonne journée, mes trésors.
Tu sais, il y a une raison pour laquelle nous, les renards, on vit dans les trous.
Allez, je suis Jean-François. Alors, on a déjà les premières lumières du soleil. Le jour ouvre ses volets. Et là,
il y a un renard qui a gratté pour chercher un insecte ou un petit rongeur. Là, oui, là.
Oui, on voit ses griffes, là, oui. Oh, une jolie plume. C'est pas une plume de renard, ça.
Non, ça, c'est une plume de hulotte.
Oui, c'est ça.
Elle se reconnaît parce qu'elle a des petites barbules, là, sur le côté, pour qu'elle arrive à voler sans bruit. Ces petites barbules tiennent les différents éléments de la plume ensemble.
C'est pour éviter silencieux. Que ça... Voilà. C'est voilà. Silencieux de, voilà. Alors, de notre chouette. Si on fait autant de bruit, ça va être compliqué de le voir, là. Le goupil. Allez, un petit peu d'alpinisme. Enfin bon, c'est pas la face nord des Grandes Jorasses ou la Meije. Hein.
Ouais.
Voilà. Donc le terrier est là. Et là, les bois que j'avais mis en travers ont bougé. Donc c'est que le renard est passé cette nuit-là.
D'accord.
Donc on va aller faire ce petit affût à proximité.
Alors, il n'est pas hyper profond, hein, mais. Non.
Ah si, si, ça continue, hein. On ne le voit pas.
Ah, ça continue, oui. Ouais. Ah oui, il est un peu spéléologue quand même, le renard.
En fait, ils aiment bien se mettre sous les rochers parce que personne ne peut venir les déterrer. Ouais. Ça, ils ont bien pigé le truc. Hein. Alors là, Denis, ce qu'il faut dire, c'est que le renard utilise volontiers les sentiers que l'homme, ou les pistes, ou les chemins que l'homme fait dans la nature. Et pour lui, ça lui évite de se mouiller les pattes quand il y a de la rosée. Oui. C'est souvent dégagé. Et puis, il y a peut-être une source de nourriture disponible si on jette un bout de nourriture par terre.
Alors, quand on parle d'un animal rusé, ça c'est l'homme qui a dit qu'il était rusé. On voit bien qu'il est très adaptable et que la compagnie de l'homme, il la connaît.
Ouais, c'est pour ça qu'on a des renards en pleine ville. De plus en plus, ils ont bien compris le bénéfice qu'ils pourraient tirer de venir en ville.
Ah oui.
D'abord, il n'y a pas de chasse, il n'y a pas de piégeage. Ensuite, il y a des quantités de nourriture incroyables. Il suffit de longer les trottoirs, d'aller fouiner dans les jardins, dans les gamelles de chats ou de chiens, pour trouver finalement, voire même de capturer un chat en vadrouille, parce que les renards sont extrêmement efficaces pour attraper des chats. Et d'ailleurs, on se plaint beaucoup des dégâts de campagnols des champs ou de campagnols terrestres, à raison d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être très, très importants. Eh bien, le renard, parmi tous les prédateurs qui peuvent exercer sur ces espèces-là, est probablement un élément essentiel.
Vous allez faire flipper les gens qui aiment les chats, vous savez, là, parce que vous avez dit qu'ils pouvaient attraper des chats domestiques. Hein, donc...
Oui, mais je suis désolé, un chat domestique qui se promène dans la nature, c'est un chat errant. Légalement, ça n'est pas normal.
Oui, enfin, légalement, ils s'en foutent.
Ah bah oui, d'accord, mais n'empêche que les dégâts qu'ils commettent sur les lézards, sur les serpents, sur les insectes, sur les oiseaux, sur les petits mammifères, c'est incommensurable. Ouais. Et aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'il faut vraiment qu'on arrive à limiter ces dégâts de chats. Alors là, je vais vous expliquer comment le renard chasse les campagnols terrestres.
On dit qu'il mulotte, c'est ça ?
Alors, il fait la chose suivante. Il repère les terriers, ouais. Ça fait des petites taupinières. Ouais. Il gratte avec les pattes de devant jusqu'à trouver le début de la galerie. Il met le nez dedans, il souffle avec le nez, ça fait comme ça. Les chiens font exactement la même chose. Et le campagnol qui se trouve dans son terrier, lui, il a horreur des courants d'air. Et il vient tout de suite voir qu'est-ce qui se passe à l'entrée du terrier. Et le renard reste à l'affût.
Il pêche chaud le campagnol.
Et dès que le campagnol sort, hop, il le chope avec les dents.
Ah mais on n'a pas fini la balade. Ah non, non, non. Mais là, qui vois-je, qui sort du terrier? Ah ben c'est Renan Luce, on y va. Allez. Alors, je vous explique, en fait, il s'est fait plaquer par sa renarde et en fait, il nous le chante. Et ça lui évite 5 ans de psychanalyse.
S'habitue à tout, aux colonnes de Buren, à Duchamp, sa fontaine, aux coups de boule de Zizou, aux voix dans l'autotune, à nos villes qu'on enfume, à nos vilaines tout. On s'habitue à tout, voir vieillir ses parents, voir élus des tyrans, aux voix qui amadouent, à se méfier de ce qu'on mange, à se méfier des gueules d'ange, à plus se méfier du tout. On s'habitue à tout, mais ne plus dire je t'aime, s'en remettons quand même, ce baston de mots doux. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, amoureux à gare, s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. On s'habitue à tout, mais pour l'amour qui part, amoureux à gare, s'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou. S'en remettre au vaudou.
On s'habitue à tout. Renan Luce.
CO2, mon amour.
L'automne avançait, mon renard restait introuvable. Mes promenades étaient devenues passionnantes. Je trouvais la forêt plus mystérieuse depuis que je savais que mon renard vivait là.
Sur France Inter.
Mais oui, ça aussi, le renard donc, et l'enfant, choisi par Jérôme Boulet. Et donc, je vous signaler que quand même Jean-François Noblet a écrit « Agir pour la biodiversité tout autour de vous » aux éditions Plumes de Carotte. Allez, allez, maintenant les renards, on écoute, on sort du terrier, on écoute la suite sur France Inter.
Redescente légère, autre endroit pas très loin, le vent comme compagnon. Alors, y est passé vous. Même en pleine nature, le cycliste que je suis a un GPS dans la tête. On ne m'a pas comme ça, Jean-François Leblay. Allez, hop.
Jean-François ? Où es-tu ? Où êtes-vous ? Jean-François ?
Ah, oui. Ça y est, ça y est.
Alors, on va arriver sur l'endroit de l'affût.
Ah,
alors ce champ, il vient d'être fauché. Et très tôt
ouais,
le matin,
parfait, ça, ouais.
c'est l'idéal pour faire un affût.
Pourquoi notre animal est donc autant classé nuisible? Alors maintenant, il a une nouvelle appellation, ce qui revient strictement au même, c'est-à-dire animal pouvant causer des dégâts.
Voilà, le terme de nuisible est maintenant proscrit par la loi.
Oui.
Et donc, on appelle ça une espèce susceptible de causer des dégâts.
Oui.
Et il est encore classé
j'adore
ainsi.
Cette espèce de novlangue qui voilà. Dit la même chose. Mais enfin,
voilà. Ouais. Et ça, dans 90 départements français, il est encore malheureusement classé dans les espèces qu'on peut tirer, chasser, piéger quasiment toute l'année.
Il est butable, mon
voilà. Ouais. Alors avec différents systèmes de torture, le coup de fusil, on va se mettre là.
Ouais.
Les chasseurs vont la nuit avec des lampes chercher les yeux dans les champs, dans les espaces ouverts, et tirer un coup de fusil au milieu des yeux. Voilà. Les piégeurs vont le piéger avec des collets,
ouais.
Vont avec des pièges qui les prennent vivants, puis après on va les tuer. On peut faire du déterrage, enfin, toute une série de supplices divers et variés pour flinguer entre 600 000 et 1 million de renards chaque année, si on compte, en plus de la chasse et du piégeage, les renards qui sont écrasés.
Hey, regarde où tu vas, le renard!
Écoute, je sais pas ce que tu cherches à rôder dehors en plein jour comme ça, mais je veux pas d'embrouilles ici. Alors fiche le camp.
Je ne cherche pas les embrouilles, monsieur. Je veux seulement acheter un Jumbo Pop à mon petit garçon.
Écoute, tu sais sans doute pas lire le renard, mais il est écrit ici, nous nous réservons le droit de refuser de servir qui que ce soit. Alors du vent!
Vous nous retardez.
Mais alors moi je reviens là-dessus, donc les chasseurs et d'autres personnes vont vous dire oui mais ils pullulent.
Non, alors ça c'est une aberration écologique parce qu'un prédateur ne peut jamais pulluler. Un prédateur, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, il se régule par rapport aux proies qu'il trouve. S'il y a beaucoup de nourriture, s'il y a beaucoup de dépôts d'ordures, s'il y a beaucoup de déchets au bord des routes, si le paysan qui a un verger laisse des fruits au sol, s'il y a une pullulation de campagnols, il y aura beaucoup de nourriture, donc le renard va être en bonne santé, il va se reproduire, ouais. Il va y avoir une bonne reproduction.
Il nous fait combien de petits en moyenne?
Il peut en faire de 3 à 6, mais il peut en faire 2 dans l'année si on sent que ça peut marcher.
Il n'est pas obligé d'avoir une carte famille nombreuse à chaque fois. Quoi.
Voilà, donc il va augmenter sa capacité de reproduction et donc finalement s'adapter à la nourriture. Si au contraire, l'hiver est rigoureux, qu'il n'y a pas beaucoup de nourriture, il y aura une absence de reproduction, voire même il y a des systèmes de régulation naturelle qui existent, c'est-à-dire des maladies, des parasites. Il peut y avoir la gale, par exemple. C'est, quand on voit qu'il y a des renards galeux, ça veut dire qu'on a un niveau de population qui est assez haut et que donc ça va faire disparaître une bonne partie des aliments. Tiens, il y a une griffe d'renne qui vient de passer là, hop là, et qui monte sur les arbres.
Je reviens là-dessus, donc les chasseurs disent « Oui, mais nous, on régule la population. »
En fait, c'est faux. C'est faux pour la raison suivante. Le terme « régulé », quand on regarde sur le dictionnaire, ça veut dire partir d'une quantité qu'on connaît au départ et on agit pour que cette quantité reste.
Donc il y a un point zéro demeure. Que l'on connaît, à part qu'on ne voilà. connaît pas.
Eh bien oui, mais le problème, c'est que personne ne sait combien il y a de renards sur les endroits où on fait cette fameuse régulation. Donc, on part d'un point inconnu.
Ouais.
Et puis, en plus, on tue n'importe quoi, n'importe comment, sans système sélectif. C'est-à-dire qu'à la limite, on va tuer des femelles qui ont des petits au terrier, on va tuer des jeunes, on va tirer des vieux, c'est n'importe quoi. Et donc, on déstructure les populations. En fait, on tire pour le plaisir et par haine, d'un prédateur qui mange la même chose que les chasseurs.
Et on va vous dire, en plus, il a la rage. Où est-ce qu'on en est?
Non, mais ça, la rage, c'est terminé. Heureusement, toutes les destructions qui ont été faites pendant des dizaines d'années n'ont servi à rien. Et nous avons démontré au centre anti-rage de Nancy qu'il valait mieux vacciner les renards. Ça a été fait avec des saucisses qu'on jetait par hélicoptère. Et ça a eu un effet immédiat parce que les renards qui étaient vaccinés et qui étaient sains contre la rage ont empêché les renards malades de l'Est de l'Europe, qui sont encore enragés de venir chez nous. Ils ont défendu leur territoire parce qu'ils étaient en bonne santé. Et ça, c'est la réussite incroyable d'une vaccination d'une espèce animale sauvage.
Mais il y a eu une mortalité de saucisse. Et ça...
voilà. Alors, on va s'installer. Alors, comment on s'installe? D'abord, j'amène un fauteuil poire. Parce que moi, j'ai horreur d'être à l'affût sans avoir mon petit confort. Voilà. Pourquoi il faut être comme ça? Parce que d'abord, il ne faut pas avoir froid. Donc, je suis protégé du froid, du sol ou de l'humidité par ce fauteuil poire. Je ne bougerai pas parce qu'il suffit que j'étende ou j'étende les jambes ou je replie les genoux. J'ai un petit filet de camouflage, voilà, que je vais étendre sur nous pour pas qu'on se fasse voir.
C'est extrêmement saillant, mais en tout cas, c'est très pratique.
Ah oui, ça y est. Alors d'abord, les gants, même en été. Pourquoi? Parce que souvent, quand on fait l'affût, il y a des moustiques.
Oui, et puis aussi parce qu'ils voient la trace blanche.
Parce que les mains et le visage sont parmi les choses les plus blanches qu'on ait.
Bon, j'ai pas pris mon noir pour le visage.
Ouais, c'est pas grave. Et puis alors, vous avez remarqué que sur ma casquette, j'ai un tout petit fil blanc,
vous avez
très léger, voilà, que j'ai accroché avec un petit machin, qui me permet de voir le sens du vent. Parce qu'évidemment, il faut se mettre à contre-vent. Et vous voyez, là, on a le bon exemple. On est dans une pente et en montagne. On dit toujours, le matin, ça monte, le soir, ça descend. Alors donc, là, on sent que le vent monte. Donc, on va plutôt regarder en bas, en contre-bas. Parce que s'il y a un renard qui passe en haut, il va nous sentir tout de suite et il va partir. Alors après, ben, il faut simplement avoir ses jumelles et puis prendre son temps, regarder le lever du jour. On va probablement entendre les premiers oiseaux, le premier chant du coq dans le village avoisin.
Pourquoi Jean-François, les renards viennent là?
Ben, tout simplement parce qu'on vient de faucher le champ et donc tous les petits rongeurs, les insectes,
ils sont à découvert,
se trouvent désemparés. Ils ont un biotope qui a complètement changé de forme. Ils sont beaucoup plus accessibles. Et donc, on va voir la nuit, le renard, le chat sauvage. On a même du lynx pas loin. Et puis, dans la journée, bah, ça sera les bus variables, le milan noir, qui vont essayer de voir si les petits rongeurs sont plus faciles à attraper. Et puis là, en plus, c'est un champ où il y a des campagnols terrestres. Là, ben, c'est un jeune renard qui vient de sortir là.
Ah ouais, ouais, ouais.
Alors
ouais.
Là, je prends les jumelles, il va aller.
50 mètres.
Ouais, il est dans les.
Très net.
Dans les hautes herbes. Et alors là, il se balade tranquille, insouciant.
Ah, total.
Bonjour, maître renard. Oui, c'est celui-ci, c'est cet arbre-ci. Venez jeter un œil. Alors bien sûr, c'est de la forêt originale, espèce indigène. On a gardé le plancher, bonne écorce, un foyer en galets, comme vous voyez.
Non, c'est pas vraiment un conifère, en tout cas. Il n'y avait pas des pins sur le marché de ce côté de la rivière?
Un pin, c'est un peu dur à trouver, au prix que vous voulez mettre.
Il faut préciser qu'on est récompensé, d'ailleurs, et vous aussi, indirectement, parce qu'on a attendu quoi, les 40 minutes.
Il passe derrière le buisson. Visiblement, il mange les sauterelles... sur les... il vient de s'enfiler une tige de graminée dans le nez. Ça l'a fait éternuer. Il y a des hirondelles rustiques là, qui commencent à venir chasser. La chaleur va monter petit à petit. Et donc, on va avoir des ascendances avec des rapaces qui vont venir et qui vont remplacer le renard dans son rôle de prédation.
Et là, il va se planquer maintenant. Il va plutôt aller en forêt maintenant,
oui. Bon, c'est plutôt un animal nocturne, oui. Sauf quand il y a eu un épisode pendant plusieurs jours de pluie ou de neige, bon, bah, il reste tranquille au terrier. Et puis après, bon, bah, il va essayer de retrouver un peu de nourriture.
Donc
c'est un animal qui se nourrit aussi de charogne, donc on peut savoir, ça élimine un certain nombre de maladies. Et puis comme tout prédateur, il va s'attaquer... au gibier, aux animaux qui sont faibles, malades, ou jeunes, ou vieux. Oui. Et donc, de ce fait-là, il entretient une bonne santé dans les populations de proies. Alors évidemment, c'est un médecin qui, au lieu de soigner ses malades, il les mange.
Ah bah, il les bouffe. Oui,
c'est, mais, c'est bon, mais c'est quand même le résultat, c'est que quand il y a des prédateurs dans un écosystème, eh bien, on a moins de chances d'avoir des maladies, des parasites, etc. Et d'ailleurs, c'est valable aussi même pour l'éthique. Vous savez, les gens se plaignent de plus en plus de la maladie de Lyme. Eh bien, on sait que l'éthique s'attaque particulièrement aux petits rongeurs. Et quand il y a des grosses densités de petits rongeurs, on a beaucoup de tiques. Et donc, on est plus susceptible d'en attraper nous-mêmes. Eh bien, quand il y a des renards, des rapaces, des hermines, du blaireau, il y a moins de petits rongeurs et donc il y a moins de tiques. Et donc, on a moins de chances d'en attraper.
Un grand merci, Jean-François Noblet.
Merci, Denis. Et puis, c'est, ça valait le coup de se lever tôt.
Ah, bah oui, oui, c'est bon. Là. On va faire une sieste après-midi, mais c'est pas grave. À très bientôt, Jean-François Noblet.
À bientôt, Denis.
Agir pour la biodiversité tout autour de vous aux éditions Plume de Carotte de Jean-François Noblet. Et puis je vous citais aussi sa sœur, L'Odyssée du Renard de Laurent Gélin et de François Moutou aux éditions de la Salamandre. Et Souffle d'Aubrac de Renaud d'Angreville, c'est superbe avec plein de renards aux éditions Fleury.
Qui vous a appris?
Après quoi?
CO2, mon amour.
Bah, la pêche, la plante, les animaux.
J'ai déjà appris tout ça, là.
Sur France Inter.
Le dernier mot de l'émission avec Jacques Bonafé.
C'est une triste chose de penser que la nature parle et que le genre humain n'écoute pas. Victor Hugo.
Merci à Paul Percheron qui a aussi mixé donc ce reportage, alors ce reportage colorisé réalisé par Jérôme Boulet. Merci également à Camille Blanès. On se retrouve la semaine prochaine avec un CO2 nature. Nous allons cueillir l'arnica sur les chaumes des Vosges. Et puis n'oubliez pas, vous avez le podcast et le Twitter. Alors tout simplement, chez Sou. Je vous souhaite un excellent week-end.